Hello à toutes et à tous et bienvenue. Nous sommes le 25 mai 2022 et vous écoutez le podcast Le Café de l'e-commerce, saison 3, épisode 116. Je suis Laetitia et je suis accompagnée d'Adrien.
Bonjour à tous, ici Adrien, accompagné de la méga sous-cotée Laetitia. Alors que les fintechs sont surcotées et que le marché se casse la figure et se retourne contre celle-ci, moi j'investirai en Laetitia. Ses blagues, ses analyses et son franc-parler sont en hyper-croissance année après année. La licorne du podcast e-commerce franco, c'est elle. Le Café de l'e-commerce est le premier podcast francophone décalé authentique sur l'actualité du e-commerce pour tous les passionnés du commerce en ligne.
LCDE vous propose de faire votre veille différemment dans vos oreilles où que vous soyez. Au sommaire de cette émission, des news simples et mortelles. Olivier Martinery de chez Cleverhead viendra évoquer avec nous la formule MacGeek. Mac, plus loin, Ic, c'est le jeu de mots entre geeks. Formule miracle au e-commerce ou pas? Le retour du clash commerce. Et oui, ça y est, la castagne, c'est revenu entre Adrien et moi. Le social commerce est-il le futur de l'e-commerce?
Et comme à chaque fin d'émission, on jouera avec du fun. Cette semaine, c'est moi qui serai le maître du jeu et on va voir si Laetitia réussira à gagner. Laetitia?
Adrien?
Prêt?
Synchronisation des montres. Toutes les news e-commerce dont on ne parlera pas cette semaine, mais qu'il ne faut pas louper, c'est la rubrique des news simples dans un format funky.
Le réseau social Snap n'atteindra pas ses objectifs annoncés pour cette année. L'action perd 40% à la bourse.
Amazon décide de licencier des leaders syndicaux pour affaiblir le mouvement social.
En Inde, Amazon lance Smart Commerce, une nouvelle offre pour les petits commerçants, pour qu'ils puissent avoir une boutique en ligne pour les internautes, mais également pour les clients physiques qui passeraient dessus et qui pourraient acheter directement.
TikTok mis sur les abonnements payants pour s'affranchir de la publicité.
Le Forrester Wave, mon livre de chevet, donc une nouvelle édition qui vient d'arriver il y a quelques jours, celui des PSP, des Merchant Payment Provider, donc de deuxième trimestre 2022. Je vous résume, en leader, on a Stripe, Adyen, Fiserv et Worldpay, et en moins leader, on a Worldline, Checkout.com, PayPal notamment. Donc voilà les quatre leaders, bravo à eux. Et puis certains nouveaux acteurs qui sont arrivés, donc c'est plutôt pas mal. Et sinon, ça reste depuis ces dernières années relativement les mêmes acteurs. La news inutile dont on s'emballait cette semaine, Laetitia s'en fiche complètement du news, c'est laquelle Laetitia?
Eh ben, vous vous souvenez, il y a quelques jours, même quelques semaines, on avait la fameuse marque Glossier qui décidait de licencier pas mal de ses salariés. Eh bien cette semaine, ils décident pas de se séparer, mais en tout cas de rétrograder la fondatrice de Glossier, Emily Weiss, qui quitte son poste de PDG. Et on s'en fout.
Oui, on s'en fout sur elle, mais on s'en fout pas de regarder un peu les
D2C,
les DNVB.
Exactement, de ce que ça veut dire.
Exactement, c'est un autre signe de ce qui est en train de se passer dans le monde des DNVB, le monde magnifique des licornes, des arcs-en-ciel et compagnie.
Là.
Ouais, mais c'est pas que le monde, c'est une partie du monde. Ça commence par une partie du monde, quoi. Et c'est peut-être pas mauvais, mais bon, on va en discuter peut-être tout à l'heure. Quoi de neuf chez nous? Quoi de neuf chez nous? C'est la rubrique où on parle de nous, ce qui s'est passé ces derniers jours dans notre monde et dans le monde de l'e-commerce. Laetitia, quoi de neuf chez toi?
Eh bah, ben, de mon côté, pas d'événement en assurance. Je suis restée bien sage depuis la semaine dernière. Je n'ai pas bougé. En revanche, j'ai reçu des messages très sympathiques et notamment un message d'un auditeur que je connais très bien qui s'appelle Mathieu. Mathieu qui nous écoute depuis l'Asie. Mathieu, c'est un ancien collègue et il évolue dans le milieu du paiement et il m'a écrit un message assez sympathique en me disant que bah, grâce à nous et depuis l'Asie, il a arriver à être up-to-date sur toutes les infos e-commerce. Donc, merci Mathieu, merci pour tes jolis mots. Je t'ai pas répondu directement, mais promis, je vais le faire. Mais je me suis dit qu'une petite dédicace au micro s'imposait.
Donc, vous savez maintenant, quand vous envoyez des SMS, des WhatsApp ou des emails privés à Laetitia, elle va la répondre au micro. Et donc, il n'y a
voilà,
plus de confidentialité, data first, data, etc. Là-dessus, on oublie tout, quoi. Bah, pour moi, je voulais faire deux, trois petites choses. La première, c'est un petit erratum. J'ai laissé croire ou j'ai peut-être mal expliqué que Zara, c'était pas juste au UK qu'ils allaient mettre en. Il y aura des frais sur la gestion des retours dans le dernier épisode. C'est une décision globale. Et notamment en France, c'est depuis un mois, depuis le fin avril, c'est 1,95€ pour le paiement des retours. A priori, je serai à Londres dans 10 jours pour ShopTalk. Donc, si jamais vous êtes dans le coin, vous êtes à Londres, vous êtes à l'événement ShopTalk, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur LinkedIn, sur WhatsApp, par mail ou comme vous voulez. Et je serai ravi de venir, de prendre une bière ou de prendre un petit moment avec vous. Et enfin, dernière petite chose, pour ceux qui sont vers Lille, Laetitia et moi, on sera le 31 mai au Furet du Nord. Donc, n'hésitez pas à passer fin de journée dans l'après-midi si vous voulez nous voir pour la dédicace du livre pro en e-commerce.
Et attends, et on sera même à Euratech le matin. Donc si vous nous écoutez depuis les locaux d'Euratech, on sera disponible.
Qu'est-ce qu'on va faire à Euratech, Laetitia? Tu dévoiles tout. Qu'est-ce qu'on va faire?
On va visiter. On va visiter.
Ah, okay.
C'est tout.
On va visiter.
Et on
c'est
va faire
ça.
Une séance de dédicace. Donc si vous voulez faire un selfie avec nous, on est là.
Bon, en gros, on est sur l'île dans la journée. Donc textez-nous si vous voulez qu'on se voit.
On a des
bails
dans le nord, c'est tout. Voilà. Breaking news, les bleak news que tu ne lis pas, on les analyse pour toi et on en parle, on en débat et le tout sans langue de bois. Je vous dis, le monde va très mal, très très mal. Gorillaz, Klarna, Adrien, qu'est-ce qui se passe?
C'est la catastrophe en tout cas, mais oui, depuis quelques jours, il y a certaines news plutôt pas très glorieuses, pas très sympas. Première, c'est Gorillaz. On en avait beaucoup parlé parce que quand on parle de quick commerce, on peut pas ne pas évoquer Gorillaz. C'est le leader européen, un des premiers acteurs du quick commerce, de ce qu'on appelle le quick commerce, donc la livraison en quelques minutes de vos courses du quotidien. C'est une boîte allemande qui, ça va pas bien pour eux parce qu'ils vont annoncer la moitié de leurs effectifs qui sont au siège. On parle de 300 personnes qui ont perdu leur travail. Ils vont se recentrer sur les 5 marchés sur lesquels ils opèrent, Angleterre, Allemagne, États-Unis, France et Hollande. Il y a quelques semaines, on avait couvert le fait que Gorillaz avait racheté leur concurrent français Frichti. Et il y a encore quelques mois, fin d'année dernière, ils avaient levé 860 millions d'euros. Donc tu as une boîte qui lève presque 1 milliard l'année dernière, qui rachète une boîte il y a quelques semaines et qui tout d'un coup licencie la moitié de ses effectifs. On peut voir ça comme vraiment un coup de frein ou en tout cas un changement de cap, un changement de stratégie au vu du contexte, mais on va en parler dans une minute. Moi, ce que je comprends, c'est la recherche de la rentabilité à tout prix et c'est fondamental pour tous les acteurs, donc notamment les acteurs où il y a beaucoup de fumée, mais on va en parler dans quelques minutes, pour tout le monde d'avoir un modèle rentable parce que ce qui va arriver là dans les prochains mois, prochains trimestres, c'est pas nécessairement très, très positif. Moi, j'ai mis dans mes notes Highlander. Tu regardais la série ou pas quand t'étais plus petite? C'est plutôt pour les mecs, non?
Non. Comment réagir à cette remarque?
Non, c'est vrai, Highlander,
pas, mais
c'est
je
des bonhommes,
très bien.
Je vois très bien. Avec des épées. Ouais.
C'est ça, exactement. Mais je vois très bien la série. Ça passait pas sur M6 d'ailleurs.
En fait, oui, c'est ça, exactement. Et en fait, le credo, c'était voilà. il ne doit en rester qu'un. Bon, c'était des films aussi, mais bon, on va oublier les films. La série, j'aimais bien. En fait, il va en rester qu'un. Dans plein de secteurs, c'est la même chose. Et je pense dans le quick commerce, il va y avoir effectivement des consolidations. Elles ont déjà commencé, mais il va y avoir des morts, des têtes qui vont être coupées. Et au final, il va y avoir un grand vainqueur qui aura la grande.
Tu prédis sur quel vainqueur? Entre Gorillaz ou Fink, peut-être? Ah non, il y a Getir aussi.
Non,
hein.
Et putain, tu me spoiles ma conclusion, mais attends, j'y arrive justement. C'est un marché, c'est un secteur qui est très compliqué. C'est un secteur sur lequel les acteurs perdent de l'argent, ils sont en conquête. Il faut le voir comme une manière de faire de la pub et de grandir sur le marché, d'avoir une taille de marché un peu plus importante, avec des modèles économiques. Bon, on en avait déjà parlé, donc je ne vais pas aller dans le modèle du quick commerce. Pour réécouter l'épisode, il y a quelques épisodes on en avait parlé. Il faut s'attendre à une augmentation du prix du service parce que c'est pas viable ce service, donc à un moment donné quelqu'un va devoir payer. Ces acteurs là qui vont continuer à perdre de l'argent, ou est-ce qu'à un moment donné le consommateur va devoir payer plus? Et donc je pense que effectivement, comme beaucoup de services, les Netflix et compagnie, quand on commence à payer un service et petit à petit on augmente, enfin ces acteurs augmentent les prix. Et qu'est-ce qu'on voit? En mai de cette année, Getir, il a été téléchargé, donc les copains turcs, ils ont été téléchargés 1,5 million de fois contre Gorillaz, où c'est 320 000. Alors après, on peut se poser la question si tout le monde a déjà téléchargé, tu vois, comment sont calculés les téléchargements, etc. Mais tout ça pour dire, quand tu me demandais qu'est-ce qui se passe, je vois Getir comme un acteur qui est extrêmement, qui est redoutable, qui a la possibilité effectivement de prendre le marché, ou en tout cas, c'est peut-être, enfin, moi je suis pas dans les comptes, donc on va voir, mais ils ont un gros succès et je vois en termes de croissance. Et notamment dans l'utilisation, ils sont très bien positionnés pour peut-être avoir une bonne place en Europe sur le quick commerce.
Alors on mise sur Getir et pas sur GoPuff, l'américain. Adrien, il se passe aussi des catastrophes du côté des fintechs.
Moi, j'ai été gentil avec toi parce que j'ai pris cette news parce que je sais que tu les adores et je sais que tu as un background fintech, donc tu dois pleurer. Ils devraient arrêter de dépenser de l'argent dans les marketing et avoir des trucs grosses bonbons.
Marketing, exactement.
Et dans les stands. Non, mais de quoi on parle d'abord? De Klarna, acteur fintech suédois qui a annoncé qu'ils ont supprimé 10% des effectifs. Alors, ils sont allés cash. Du jour au lendemain, ils ont supprimé les postes. On parle de 700 personnes qui ont ont perdu leur boulot. Donc là, comme d'habitude, comme avec Fast, il y a une solidarité sur LinkedIn qui s'est créée. J'ai vu passer un Google Sheet où tu as tous les noms des profils, etc. Donc si vous cherchez à recruter, il y a des bons profils à aller récupérer. La valorisation de la boîte, on était à plus de 46 milliards de dollars. Et qu'est-ce qu'ils expliquent? Donc ils sont bien connus sur le côté paiement fractionné notamment, mais ils expliquent que le contexte économique, politique, géopolitique ou tout ce que tu veux est en train de changer rapidement, et en prévention de toute cette dégradation de la situation économique, ils veulent prendre les devants et commencer à anticiper ce qui va se passer dans les prochains trimestres. Je souris, enfin, il n'y a rien de drôle là-dedans, mais il y a encore une semaine, ils annonçaient, la diversification de leur outil avec des fonctionnalités de shopping social, notamment, ils proposent des devices, et en magasin, tu vas pouvoir connecter directement avec ton consommateur, faire des calls, etc., avec de la vidéo. Donc, je pense que maintenant, ils vont recaler les investissements, essayer de chercher, comme on disait tout à l'heure, la rentabilité, c'est un peu pareil avec Gorillaz. Donc, en blaguant, je disais un peu moins de marketing, parce que s'il y a bien une boîte qui dépensait dans tous les sens, c'était bien clair. Alors c'était Canon ce qu'ils faisaient, mais je pense on va les voir moins souvent. On peut pas ne pas penser à Fast en début d'année, même si l'histoire est différente. Fast, ils étaient, je crois, 800 et ils vendaient rien du tout, donc il n'y avait pas de revenus et ils brûlaient de l'argent. Mais ça reste dans les fintech. Consolidation, pareil, avec peut-être pas. Là, on est sur des acteurs qui sont plus matures, parce que c'est le monde des fintech, ça n'existe pas depuis 6 mois. Donc contrairement au quick commerce, je pense qu'il y a un peu plus. Donc il y a toujours beaucoup de survalorisation dans tous les sens, mais il y a peut-être des acteurs en place, et je pense notamment à des PayPal, par exemple, ou des Stripe qui seraient capables de racheter d'autres acteurs si ça rentre dans la stratégie. En tout cas, la consolidation, elle se fera différemment par des acquisitions.
Moi, je voudrais juste rajouter quelque chose par rapport à l'offre. Je pense que peut-être que proposer des rouges à lèvres à 29 € qu'on peut payer en 4 fois sans frais, c'est peut-être pas le bon business model, et que effectivement, ils n'ont pas trouvé peut-être leur audience, en tout cas en France.
Et puis autre chose, tu viens juste de parler d'une fonctionnalité, mais tu vois comment tu montes une boîte sur une fonctionnalité que tout le monde propose.
Tout le monde propose.
Alors ils ont essayé en ayant un design super sexy, après en liant des partenariats avec des plateformes e-commerce, etc. Mais finalement, c'est la même chose que tout le monde, et c'est très dur de les différencier au-delà après du taux de commissionnement qu'ils prennent. J'avais une méta-analyse sur tout ça. Je voulais avoir ton avis. Il y a plusieurs choses que je voulais partager avec toi. Déjà, la gestion de l'hypercroissance, elle est très difficile. Toutes ces boîtes-là dont on parle, c'est de l'hypercroissance. C'est des trucs, on n'a pas idée. Tant que tu ne bosses pas dans ce genre de boîte, tu ne te rends pas compte en termes d'investissement, de ce qui se passe, de croissance, d'embauche en interne, ce que ça veut dire. Et c'est bien ces boîtes quand elles cartonnent, quand l'économie est en croissance. Avec le Covid, on sait que les investissements online, ils ont augmenté. Mais quand l'économie est en baisse ou stagne, il y a ces acteurs-là, peut-être ils n'ont plus leur place. Et du coup, la survalorisation qu'ils ont pu, sur lesquelles ils ont pu bénéficier, le vent, il change et c'est plus compliqué pour elles. Je voulais parler d'un autre truc, peut-être que toi, tu en as entendu parler. Donc, on va faire attention à ce qu'on dit au micro, parce qu'encore une fois, on va se retrouver recevoir des courriers dans tous les sens. C'est la culture toxique de ces boîtes-là. Et c'est lié notamment à cette hypercroissance. Alors les choses publiques, donc je les nomme, c'est Uber, Revolut, N26. Là, il y a eu des scandales, c'était passé dans les news, mais il y a énormément de boîtes qui sont en hypercroissance, ou à l'intérieur, à l'extérieur, c'est tout joli, mais à l'intérieur, c'est extrêmement difficile. Pourquoi ? Parce que tu dois embaucher, et c'est très dur de trouver des talents. Du coup, tu embosses peut-être vite et mal. Tu as les fondateurs qui sont encore en contrôle de plein de trucs, et gérer une boîte de 500 personnes, ou même 100, 500 ou 1000 personnes, ou 5000 personnes, ça demande des compétences différentes. Donc, tout ça lié fait que tu peux peut-être tu embauches pas nécessairement les bonnes personnes, ou elles se projettent peut-être pas avec la boîte, ou tu vas trop vite, tu prends des raccourcis sur l'enablement ou sur la culture de la boîte, et ça crée un environnement interne qu'on ne voit pas, nous, pour le coup, mais qui est très 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 difficile. Et je pense que les bulles, bulles, c'est un grand mot, mais les survalorisations, moi je les vois notamment dans trois secteurs.
C'est une bulle spéculative,
ouais. Ouais, dans Web3, avec Metaverse et NFT. Je dis pas qu'il y a du ça devrait être rien, mais je dis juste il y a une survalorisation autour de tout ça, c'est-à-dire que les usages aujourd'hui sont pas en lien avec la valorisation. Web3, quick commerce et fintech. Donc, il y a peut-être encore d'autres secteurs sur lesquels j'ai pas pensé, mais ceux sur lesquels on couvre régulièrement, voilà un petit peu tout ça. Donc, c'est sain, c'est triste, oui, c'est sain parce que c'est plus en phase avec la réalité du marché. Mais quand on parle avec certains VC ou certains experts, ils nous disent c'est que le début. Tu en penses quoi? C'est que le début?
J'en pense que effectivement c'est que le début et ça me rappelle une histoire qui est l'une de mes recommandations, qui est l'histoire de WeWork. Tu parles de 45 millions de valorisation pour Klarna. C'est la même chose, c'est quasiment le même chiffre à la virgule près que WeWork. Ouais. Tout était basé sur de l'hypercroissance. Enfin, tout le business model de WeWork était basé sur l'hypercroissance. Et c'est un peu la même chose en fait.
C'est la série WeCrash sur Apple.
Ah, c'est Marocco, c'est Marocco.
Non mais en fait pourquoi? Parce qu'on me l'a recommandé, j'ai voulu le mater et en fait c'est impossible parce que j'ai pas d'Apple, etc. Et effectivement, du coup, Laetitia, je pense que tu as raison. Si on regarde, alors je ne l'ai pas vu pour le coup, mais des retours que j'ai eus, si tu regardes ça, tu comprends plein de startups. Au-delà de WeWork,
exactement,
tu comprends plein de trucs qui
tout
sont passés.
Tout se passe de la même manière. Et ce qui se passe un peu, en tout cas pour le quick commerce, c'est flagrant. Et un peu aussi pour le monde des fintechs, baser toute sa stratégie sur de l'hypercroissance et sur de la levée de fonds quasi systématique. Bon, en tout cas, moi, comme toi, je te rejoins et je me dis que ce n'est pas très sain comme vision du business. Mais bon, ça a plu à certains investisseurs, hein. A priori, c'est que certains, ils voyaient beaucoup d'avantages. Court-termiste peut-être, mais la réalité est tout autre aujourd'hui. Clash Commerce, bienvenue dans l'octogone de l'e-commerce. Cette fois-ci, on va débattre, mais on va sortir les gants de boxe avec Adrien sur un sujet encore bien, 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 bien chaud. Le social commerce est-il le futur du commerce?
Laetitia, je te préviens tout de suite, j'ai préparé tous les arguments et tous les faux arguments, là, les faux argumentaires pour gagner une argumentation. Donc, est-ce que tu es prête?
Allez, ready to go. Round
1, fight! Premier round, Laetitia, je te propose qu'on commence gentiment. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà, on va parler de c'est quoi le social commerce et donner quelques chiffres avant d'entrer directement dans le fight.
On commence tout de suite avec une définition. Qu'est-ce que c'est que le social commerce? Je suis allée dans mes petits bouquins que j'ai chez moi et je suis allée très simplement regarder dans le digital benchmark de l'EBG. On cite très souvent au micro l'EBG. Je suis allée dans un papier qui date de 2018. Je voulais juste voir si ça correspondait encore, si la définition était bonne. Je vous la donne. Le social commerce renvoie au commerce connecté ou au commerce social. C'est le fait d'utiliser les réseaux sociaux et les interactions sociales pour contribuer à un achat ou à une vente en ligne. Le social commerce peut être défini comme l'utilisation des réseaux sociaux à des fins de développement de vente. Mais moi, je suis assez d'accord. Je trouve que ça n'a pas trop bougé. J'ajouterais peut-être que le social commerce est très, très lié à un device qui est le smartphone et à l'avènement du smartphone. Je pense très sincèrement que lorsqu'on parle d'acheter sur des réseaux sociaux, on parle davantage d'acheter sur des applications qui sont sur des smartphones plutôt que sur ordinateur.
La définition, sur la définition, elle est hyper générale. Enfin, déjà, tout le monde a sa propre définition et en fait, tu peux tout y mettre. Donc, on pourrait même dire que tout est social commerce, quoi, avec la définition stricte sensu que t'as liée. Mais bon, on se comprend quand on parle de social commerce, mais c'est amusant. T'avais d'autres choses, Laetitia, sur quelques chiffres clés?
Les chiffres clés, eh bien, pourquoi est important de le rappeler, c'est parce que le social commerce représente une manne financière non négligeable qui est estimée à 1200 milliards de dollars dans le monde à horizon 2025 contre 492 milliards de dollars en 2021. Ma source, eh bien, c'est une excellente étude d'Accenture que je vous invite à regarder. On mettra tout ça dans les notes de l'émission. Les acteurs principaux, eh bien, on a Meta, donc le groupe Meta qui comprend Facebook, Insta, Messenger, WhatsApp. On a aussi TikTok, Snap et Pinterest. Et tous ces top acteurs ont bien sûr une déclinaison, on va dire e-commerce, shoppable, voilà. Pour le groupe Meta, on a Facebook Shops, Instagram Shopping, TikTok Shopping ou encore Pinterest Shopping pour Pinterest. Donc ça, c'est toute la dimension e-commerce que revêt désormais les réseaux sociaux.
Et tiens, juste pour rebondir là-dessus, parce que pourquoi on parle de social commerce? Aujourd'hui, en moyenne, on passe 1h46 tous les jours. C'est plus de 5 minutes de plus par rapport à l'année dernière. 80% de la population française est présente sur les réseaux sociaux. Alors, il faut définir le présent. Est-ce que c'est être passif comme moi et on fait rien, ou est-ce que c'est actif, poster des choses? Je pense que ceux qui postent, c'est beaucoup, beaucoup moins. Mais en tout cas, qui se connectent au moins une fois par mois dans les réseaux sociaux, on est à 80%. Et on a plus de 50% des internautes français qui déclarent qu'ils utilisent les réseaux sociaux pour rechercher des informations sur des produits ou sur des marques. Et le chiffre, enfin le statement, la phrase, on va dire, qui a fait beaucoup de bruit il y a quelques semaines, c'est la vente sur les réseaux sociaux qui devrait croître 3 fois plus vite que le e-commerce classique. Donc, ce qui nous amène à regarder un peu qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années. On voit où est le social commerce qui continue à croître. Et donc, la question qu'on voulait se poser ensemble, Laetitia, c'est est-ce que le social commerce, il va tout prendre avec lui? Et est-ce qu'il va remplacer le e-commerce? Il faut commencer, on va être en avance avec tout le monde, on va arrêter d'appeler ça le e-commerce et on appelle ça le social commerce pour être en avance avec tout le monde. Donc je te propose qu'on en discute directement dans le deuxième round. Round 2,
fight!
Deuxième round, Laetitia. Alors, commence avec tes arguments. Est-ce que tu penses que ça va bouffer l'e-commerce? Est-ce que ça va continuer à croître jusqu'à atteindre une taille qui va être omniprésent partout?
Alors moi, déjà, je voudrais bien asseoir mon opinion. Je trouve que le social commerce met du temps à percer. Pour rappel, Insta Shopping, ça a été créé en 2018. Vous me direz, c'était il n'y a pas très longtemps. Facebook Shops, en mai 2020. Moi, je me souviens de l'annonce de Mark Zuckerberg qui nous disait, face caméra, écoutez, je vais tous vous aider à vendre en ligne et plus précisément sur les réseaux sociaux. TikTok Shopping, ça a apparu en août 2021 et Pinterest Shopping en 2021. Tous ces réseaux sociaux-là, ils ont quasiment plus de 10 ans d'existence et ils se lancent dans l'e-commerce avec peut-être 10 ans de retard. Donc moi, je m'interpelle et ma question première, c'est mais pourquoi est-ce que ces gens-là n'ont pas réussi à relever le défi, l'enjeu des marques qui est que, et même de ces applications qui est pourquoi est-ce que le consommateur quitte l'application pour pouvoir acheter en ligne? Et comment est-ce qu'on fait pour le faire rester? Je me dis, mais toutes ces années pour ne pas réussir à l'avoir fait rester, c'est quand même assez étrange. Le fait de créer des Insta Shopping ou des Facebook Shops, je ne suis pas certaine que ce soit la vraie solution, en tout cas technique.
Laetitia, par rapport à ça, tu me dis ça fait 10 ans, ça te montre qu'ils ne savent pas faire. Et ils vont t'expliquer, les plateformes, elles vont t'expliquer que oui, mais alors, et là où ils ont réussi, c'est en C2C. Les Facebook Marketplace, par exemple, ça cartonne, c'est très bien. Mais adresser les marques ou les grands comptes pour qu'elles puissent vendre sur ces plateformes, techniquement, ils n'ont pas réussi. En termes d'usage, ils n'ont pas réussi. Et je ne vois aucun use case à l'exception de quelques-uns qui sont sur Shopify, certaines DNVB qui ont réussi. D'ailleurs, DNVB, ce sera peut-être l'exception sur du social commerce, et c'est le porte-étendard, c'est ceux qui vont faire beaucoup de promotions autour de ça, et on regarde aujourd'hui le modèle DNVB, mais ça c'est un autre débat. Donc moi je suis extrêmement critique quand tu vois les moyens qu'ils ont et la population qu'ils ont et le potentiel de fou furieux que ces plateformes avaient, et je mets là-dedans de Twitch à YouTube au plus classique, les Snap, Pinterest et compagnie.
Eh bien, écoute, je crois que c'est un clash commerce avorté, puisque je suis d'accord avec toi. Moi, je me dis que tout ce temps-là, mais que faites-vous les gars? Je ne comprends pas. Donc, évidemment, les marques ont un besoin croissant. Tu parles des DNVB. Les DNVB, je pense vraiment, à mon humble avis, que ce qu'elles font sur les réseaux sociaux et sur le social commerce, c'est d'investir dans de la pub. Mais est-ce que de la pub, c'est... Alors, bien évidemment, la pub, c'est vendre. Mais comment est-ce que tu te différencies? Il n'y a pas 36 milliards de moyens de vendre sur les réseaux sociaux en réalité. Donc tout le monde duplique avec le même schéma. Et je ne suis pas certaine que les ventes... je suis certaine que les ventes ne décollent pas, en tout cas, dans les apps.
Bon, Laetitia, moi,
je suis extrêmement critique.
Oui, moi, ma stratégie, c'était de te laisser baisser ta garde pour te mettre un coup. Donc oui, mais non. Oui, mais non, pourquoi? Parce qu'en fait, si tu regardes un petit peu les usages, est-ce qu'il y a 10 ans, tu étais prête à aller acheter sur des réseaux sociaux? Non. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, tu as parlé de mobile. Depuis qu'on a maintenant 4G, 5G, on a tous des téléphones, on est tous connectés, etc. C'est peut-être maintenant le bon moment. On a vu avec le Covid, avec le live shopping, avec plein d'usages qui se sont développés où les gens, ils étaient complètement à la ramasse et tout le monde n'est pas Laetitia et Adrien surconnectés. Donc, peut-être que le bon moment, il est là. La réalité, c'est qu'historiquement, il y a eu des freins, principalement autour de la confiance des consommateurs, des utilisateurs sur ces plateformes. Aujourd'hui, on se sent pas à l'aise d'envoyer la donnée, on se sent pas à l'aise de faire une transaction sur ces plateformes tierces. Comment se gère la politique de retour des produits, de remboursement, d'échange, la livraison? Tout ça, c'est des choses où on a pas d'idée. Enfin, en tant que consommateur, on peut se mettre des points d'interrogation. Et les marques, elles avaient pas également l'envie d'aller dessus. Mais c'est le bon moment parce qu'aujourd'hui, on parlait encore tout à l'heure là des TikTok et de ces réseaux sociaux qui prennent une part très importante de l'exposition ou de l'engagement avec les consommateurs. La nouvelle génération également, toute cette nouvelle génération, la Gen Z qui est constamment, donc c'est ceux qui sont nés entre 97 et 2010, qui sont constamment sur leur téléphone, comme tu disais, et sur les réseaux sociaux. Si tu leur mets à disposition les bons outils, ils vont complètement capter ces nouveaux usages et acheter sur ces plateformes.
Oui, tu as tout à fait raison. Et surtout, moi, ça me rappelle un peu à l'époque, quand on était plus jeune dans les commerces.
Tu parles comme la vieille, vas-y.
Ouais. C'est ça, je suis devenue une vieille. Mais on se disait, le site e-commerce, c'est la vitrine du magasin. Bah non, et les réseaux sociaux sont pas plus la vitrine du site e-commerce qui est elle-même la vitrine du magasin. Je pense que bah, je vais peut-être sortir, alors c'est même pas un gros mot, mais en tout cas un mot valise, mais il faut réfléchir de manière omnicanale. Et moi, je trouve que bah, sur les réseaux, à part réfléchir en termes de publicité, l'omnicanalité, elle est pas là, ça n'existe pas. Mais il y a quand même des petites exceptions, tu vois, notamment je pense à Snapchat qui a beaucoup œuvré en ce sens-là pour que bah, nous faire appuyer sur ce fameux bouton acheter sans sortir de l'app, parce que vraiment l'enjeu c'est ne pas sortir de l'app. Et par exemple Snapchat a vraiment misé beaucoup sur la technique, sur la technologie. Je pense que c'est une des apps qui a vraiment montré, fait ses preuves sur la réalité augmentée et qui décline tout son social commerce à travers des fonctionnalités liées à la réalité augmentée.
Et du coup on regarde tous les investissements qui ont été faits. Il y a la semaine dernière, il y a deux semaines, YouTube qui commence à avoir plus d'outils, toutes les plateformes, elles sont en train de se positionner là-dessus, même des Netflix ou des acteurs que tu imaginerais pas. À partir du moment où tu captes de l'audience, l'e-commerce est tellement capital. C'est pour ça que le social commerce, je vais pas spoiler ce que je pense de ça, mais tous ces outils, toutes ces plateformes, elles ont des outils qu'elles sont en train de mettre en place. C'est extrêmement difficile pour ces boîtes de changer parce qu'elles ont un existant, elles ont une interface, etc. Donc c'est pas aussi rapide qu'on pourrait l'imaginer. Et les marques freinaient aussi. C'est un autre point de mon argumentation, c'est que au final, moi je suis convaincu d'une chose, c'est le client qui gagne toujours, tu vois, parce que le premier qui va donner un truc que le client préfère, le client va le choisir. Et les marques, elles préféraient garder le customer journey, donc garder le client dans leur écosystème. Je te trouve très dur quand tu dis que le social c'est utilisé principalement pour de la pub. Tu as raison, mais il y a quand même beaucoup de contenu, en plus toi t'es bien placé pour le savoir. Et regarde Nicolas qui nous parle constamment de ces magasins connectés qui sont instagrammables, donc ça c'est des choses que tu connais beaucoup mieux que moi. Mais en réalité le social, sans être la transaction sur le social, il y a déjà énormément de passerelles et de liens ou de leverage qui est utilisé par les marques.
Oui, t'as raison, je suis très très dur, parce que moi j'ai quand même pour référence des super apps notamment chinoises comme WeChat où on peut tout faire et on n'a pas besoin de sortir. Donc ça c'est un peu moi mon graal. Alors attention, je sais que WeChat peut être un grand bordel et qu'on ne peut pas comprendre forcément nous avec nos références occidentales. Toutefois, ils ont fait un pari, c'est ne pas faire sortir le client ou le prospect. Et ça, c'est juste génial. Là où tu as raison, c'est qu'il y a quand même une défiance par rapport aux usagers, par rapport à nous. On est toujours hyper critique de laisser sa carte bleue, de laisser son adresse. On s'interroge toujours sur comment est-ce qu'on va faire si ça ne va pas, si le retour et si j'ai commandé la mauvaise taille et toutes ces choses-là. Là où je pense que les marques, elles ont confiance, elles investissent. Je pense, encore une fois, je reviens avec mon Snapchat. Snapchat, ils ont créé un espèce de brand portal où les marques peuvent créer l'ensemble de leur contenu et aussi proposer des fonctionnalités d'achat depuis Snapchat, et elles l'ont proposé à des marques assez exclusives, par exemple Dior, Louis Vuitton, toutes ces choses-là. Donc il y a encore quelques années, les marques, on avait du mal à les convaincre et à leur dire allez, tu vas te faire viens sur une campagne Snapchat quoi, mais je comprends rien, c'est pas ma cible, c'est pas tout ce que vous voulez. Finalement, les marques, elles y vont. Est-ce qu'elles y vont parce que elles sont assurées du ROI? Je sais pas, peut-être qu'elles sont séduites par la techno, mais en tout cas elles y vont. Là où peut-être t'as raison Adrien sur les usages et sur les consommateurs qui ont quand même pas mal de défiance, là il y a peut-être un gros décalage qu'on peut s'y lier. Final
round fight. Laetitia, final round, quelle est ta note sur déjà, comment est-ce que tu pourrais répondre à la question, est-ce que tu crois au social commerce et quelle serait ta note sur 10?
Alors oui, je crois au social commerce parce que je suis une éternelle optimiste. Par contre, je ne mettrai pas une super note parce que je suis très déçue de la tournure des choses. Même s'il y a beaucoup d'avancées technologiques, je dirais un 6,5. C'est possible de mettre des demi?
Tu mets des demi, c'est très bien. Écoute, je vais te surprendre parce que j'étais sûr que tu serais pro social et de par toi, tes affinités et en plus t'es sur ces réseaux. Moi, j'y crois. J'y crois plus qu'à mort, en fait. J'ai mis 9 sur 10. Et pourquoi? Parce que de manière... Non, mais regarde, on est des humains. On vit en société. Par définition, on a besoin du contact avec les autres. Et en fait, je pense que tout est social. Quand on parle de métavers, par définition, c'est du social. Et en fait, je pense que plus ça va aller et plus on sera connecté. Et ça serait même inconcevable demain d'acheter tout seul dans un coin ou sur un site qui est complètement déconnecté du reste de l'écosystème. Donc, je pense que humainement, on est en train d'aller là-dedans. Aujourd'hui, c'est tout pété, ça marche pas. mais c'est quand on regarde les progrès ces dernières années et où est-ce que ça va aller, je pense que ça va être une évidence. On parlera même plus de social commerce parce que ça sera de toute façon social et tu pourras acheter de n'importe où, n'importe comment, certes. Donc le bouton panier, ce putain de bouton panier, il sera partout, n'importe où, à n'importe quel moment du customer journey, et surtout on sera tous interconnectés. Alors après, est-ce que ça sera des Snap, des Facebook, etc., ou des Meta qui géreront ça, je sais pas, mais cette définition de social commerce, elle va tout englober.
Je te suis et je suis très sévère parce que je donne une note qui n'est pas très comment est-ce qu'on dit, je fais pas beaucoup de projections, c'est sur l'état actuel. Je crois que moi, là, c'est ça. Je donne 6,5 parce que, comme tu dis, d'accord. C'est éclaté au sol.
Je suis d'accord. Par rapport à aujourd'hui, il y a les freins sur la techno, les usages, la donnée, etc. Mais j'ai expliqué ce que je pensais. Et tu vois, en plus, même Amazon, là, ils ont racheté une boîte il y a quelques semaines en Inde. Ils font plein de trucs en Inde. Ça m'énerve parce qu'on est loin et on ne voit pas ce qui se passe. Mais je pense que c'est vraiment un terrain pour eux de test. Ils ont racheté une boîte pour accélérer en social commerce. Donc également, les Amazon qui se positionnent dessus. Bah, écoute, Laetitia, finalement, on a quelques beaux. Mais on s'est pas trop mis sur la tronche. Je m'attendais à ce que ça soit beaucoup plus animé qu'on perde des dents.
Ouais, hein. Je crois qu'il faut qu'on parle de fintech ou de choses comme ça pour bien être en désaccord. Ok Adrien, bon, on s'est pas trop fighté. Et vous qui nous écoutez, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas sur le groupe WhatsApp à nous dire ce que vous en pensez. Alors non, ne votez pas ni Adrien ni Laetitia, mais en tout cas, partagez-nous vos opinions. On sera ravis de les lire.
Ne votez pas, mais t'adorais quand les gens votaient pour toi. En fait, si c'est pour Laetitia, vous votez pour Laetitia. Et si c'est pour moi, ne votez pas. On va faire comme ça.
Mais non.
Mais si tu as dit trois fois, mais non, ça veut dire mais si. Passons à la suite, Laetitia.
Allez, Métacommerce, Métaverse, Métacommerce, Métanews, c'est la rubrique dédiée au Métaverse. Que vous soyez novice, expert ou juste curieux, on vous embarque dans le Métaverse. Adrien, qu'est-ce qui se passe du côté de chez Meta?
Bon, déjà, du côté de Meta, ils ont annoncé, donc on s'est équipé du casque, l'Oculus Quest 2. On pourra critiquer tout ce qu'on veut. Pour le prix, je crois que c'est moins de 400€. Ils ont rendu accessible quelque chose qui est juste incroyable. Dans les usages et tout ça, on est plus critique, mais on en parlera un autre moment. Ce que Meta a annoncé il y a quelques jours, c'est le projet Cambria. Derrière ce mot, en fait, c'est un casque, un nouveau casque qui va arriver d'une nouvelle génération. Ça sera même pas un MetaQuest 3, ça sera quelque chose, je pense, une autre gamme et qui s'adressera aux professionnels et qui pourrait remplacer le PC portable ou l'ordinateur de travail. Ça sera un vrai environnement de travail.
C'est pas pour les enfants cette fois-ci?
Ça sera pas pour les enfants, ouais, exactement. Meta annonce également qu'ils vont lancer 4 casques d'ici 2024. Mais ce qui m'intéressait, c'est sur cette news de se dire, tu vas avoir un ordinateur, j'ai fait le lapsus. Tu vas avoir un casque sur la tête. Le positionnement qu'ils ont eu, c'est un positionnement hybride et ça me plaît beaucoup. C'est réalité mixte. Tu vas pas complètement être en VR, mais tu seras en VR et AR. Ce qui me plaît bien, la réalité augmentée, parce que tu vas pouvoir utiliser le meilleur des deux mondes. Je sens le bullshitomètre au maximum quand il explique qu'on va remplacer les ordinateurs, clavier, souris, enfin interface, tout est à construire et à revoir. Donc j'y crois pas une seconde, mais en tout cas qu'ils investissent et qu'ils montent en gamme et qu'ils proposent un outil ou une interface qui soit beaucoup plus puissante que ce qu'ils ont aujourd'hui, je trouve ça intéressant. Et le positionnement qu'ils ont, qui est pas tout le all-in sur la VR, mais avoir de l'AR et d'avoir quelque chose de mix, ça va peut-être permettre des usages ou en tout cas une adoption qui sera plus facile. Et deuxième chose dans Métacommerce, mais je vais me refuser à toutes les lister parce que sinon on va passer notre journée là-dessus, c'est Mango qui lance une collection NFT. En fait, il y en a un paquet qui se lance, le luxe l'a fait dans tous les sens, la fashion le fait également, d'autres marques qui veulent communiquer, même des supermarchés, des gros retailers le font. Donc écoute, c'est bien, j'en sais rien, c'est bien,
mais quand est-ce que ça va exploser?
Oui, ben heureusement pour le moment c'est des petits trucs, tu vois, ils les vendent 10 balles, 20 balles, etc. Mais le jour où ça va commencer à prendre des proportions, n'importe quoi, où il y aura des arnaques ou ce genre de choses, je pense que là il y aura de la mauvaise pub. Mais pour le moment c'est cool parce que du coup les marques elles testent et c'est une manière simple et funky de tester trop gros impact. Tu achèterais un NFT d'une marque que t'aimes bien? C'est quoi ta marque préférée?
Je sais pas. Et je pense que si j'achète un jour un NFT, ce serait pas lié à fashion ou
non, mais ça serait lié à un truc que tu aimes.
Oui.
Ouais, donc peut-être une artiste.
À l'art. Ouais. Ouais, voilà. Un ou une artiste.
La Renoir, là, que tu adores, c'est laquelle? Non, ah, c'est carrément. Je sais pas, non, il n'y a pas un Beyoncé ou un truc comme ça, ouais, si elle fait un truc. Mais je crois qu'elle a fait en plus, non?
Mais non, je pense plutôt quelqu'un qui a besoin, tu vois. Je peux prendre quelqu'un.
Bah oui. Non, regarde les Madonna et compagnie, c'est ceux qui n'ont pas besoin qui les font. Le jour où des gens. Bon, bref, ça sera un autre débat, peut-être pour un autre moment.
Non, mais il y avait un pianiste, ouais. Sofiane Pamar. Qui avait lancé tout un programme de NFT et comme j'aime bien ce qu'il fait, bon, il est connu mais c'est pas non plus je m'étais posé la question, mais voilà, beaucoup plus un artiste en devenir que qu'une marque déjà bien implantée.
Donc c'est une manière de soutenir plus que d'utiliser le NFT en tant que soi et de se parvenir avec d'avoir
exactement.
Un usage.
Exactement. Moi, ma philosophie sur la blockchain, le NFT, le métavers, c'est plus pour du soutien.
Attends, Laetitia, garde ça. On va le garder pour le prochain Clash Commerce. Attends. je vais rien dire du tout. Je vais me retenir de ne rien dire.
Passe le mic, c'est le moment où on partage le mic avec un ou une invitée. Cette semaine, il s'agit d'un invité, c'est Olivier Martinerie, Head of Digital Consulting chez Cleverage.
Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Olivier. Bonjour Olivier.
Bonjour Adrien.
Olivier, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui te connaissent pas ?
Oui, avec plaisir. Je suis donc Olivier Martinerie et je suis consultant et responsable du pôle conseil dans l'ESN Cleverage.
Ouais, et Cleverage, pour ceux qui sont pas familiers nécessairement à l'e-commerce, alors tous ceux qui travaillent dans l'e-commerce, à mon avis, connaissent bien l'agence Cleverage. Tu peux juste redonner 2-3 éléments sur Cleverage ?
Oui, bien sûr, avec plaisir. C'est une agence full web, full mobile, full digital. On est 350 et globalement, on accompagne les clients en conseil et en mise en œuvre de projets omnicanaux, de projets digitaux depuis une vingtaine d'années.
Et je le disais en souriant, ceux qui connaissent pas Cleverage, enfin tous ceux qui travaillent dans l'e-commerce connaissent Cleverage, parce qu'une des particularités, c'est que vous êtes une agence indépendante et ça fait un paquet d'années que je te connais. Et donc, ça me fait extrêmement plaisir de discuter ensemble, parce que si on parle d'experts e-commerce, je vous mettrai très certainement dans le top 10 des experts e-commerce en France. Donc, je suis extrêmement honoré et ravi de pouvoir échanger avec toi, Olivier. Alors, Olivier, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me passionne et toi également, c'est le sujet Mac. On en a beaucoup parlé au podcast depuis plusieurs mois. Mais avant de parler de Mac, est-ce que tu peux nous redéfinir ce que ça signifie ?
Donc, Mac, c'est un acronyme. Les lettres, c'est microservice, API first, cloud native et headless. Alors, au-delà de l'acronyme, Mac, c'est vraiment un concept de dire que les nouvelles applications, que ce soit pour faire du e-commerce, la gestion de contenu, tout autre type de fonctionnalité, doit s'appuyer sur ces quatre principes. Alors, les quatre principes, c'est microservice. Donc, on arrête d'avoir une application, une suite qui fait énormément de fonctionnalités. On package, on découpe les fonctionnalités les unes des autres. Deuxième, c'est API first. Ces applications, en général, ne vont pas être autosuffisantes. On a besoin de plusieurs, donc elles doivent pouvoir communiquer facilement, d'où les API. Cloud native, elles doivent être faites. C'est une des complexités pour les anciens entrants. Elles doivent être faites pour le cloud. Donc, facile à déployer, facile à scaler. Et du coup, facile à mettre en œuvre puisqu'elles répondent à des standards. Et enfin, headless, donc le fameux découplage entre les services et les frontaux. Voilà, donc il y a un certain nombre d'applications, toujours plus nombreuses, qui rentrent dans cette mécanique ou dans ce standard.
Et enfin, en tout cas, on en parle beaucoup parce que si je simplifie à l'extrême, et justement, on va en discuter, on va dire que c'est la nouvelle génération d'architecture, ou en tout cas, c'est ce vers quoi on veut tendre parce que c'est plus moderne, plus mieux, plus tout. Mais justement, on va en discuter. Et l'échange que je voulais avoir aujourd'hui avec toi, Olivier, c'est toi, tu les fais, les projets. Donc, au-delà des bruits de ce que certains éditeurs vont communiquer ou de tous les concepts marketing, on sait que tout est cyclique d'ailleurs. Toi, tu accompagnes des enseignes dans la mise en place de ces. De projets e-commerce, de projets multicanaux. Et je voulais échanger quelques minutes avec toi sur un petit peu la réalité ou plutôt les mythes ou des choses qu'on a peut-être, des raccourcis qu'on a peut-être tendance à penser autour du Mac. Et donc, je t'ai demandé de réfléchir à 3 idées reçues ou 3 choses que tu voyais le plus, toi, lorsque tu conduis des projets ou quand tu accompagnes des marques et qu'on en discute. Alors, qu'est-ce que tu avais choisi comme première idée reçue autour du Mac ?
Alors, l'idée reçue, ou plutôt l'idée promue par les éditeurs de ces solutions, par l'Alliance Mac, c'est architecture ultra moderne. Voilà. Si vous prenez une solution Mac, vous avez tout ce qu'il faut, vous êtes dans la modernité, vous avez mis une croix sur les vieilles solutions préhistoriques, etc. Certes, c'est en partie vrai. C'est-à-dire que les solutions, ou en tout cas la plupart des solutions qui sont Mac, sont, elles, ultra modernes. La complexité, toute entreprise qui a fait un projet e-commerce une fois dans sa vie le sait, c'est que le e-commerce, c'est pas une solution. Le e-commerce, c'est un écosystème. Ce sont un certain nombre de fonctionnalités, ce sont des données, ce sont des services. Et en fait, il y a une espèce d'illusion magique qui est de dire, ouais, je vais mettre une solution Mac et tout à coup, mon IT devient moderne. Évidemment, il n'en est rien. Et au contraire, même, on s'insère dans des écosystèmes avec une gestion de commandes, une gestion de clients, enfin, tout ce qui fait un e-commerce. Et l'introduction de ce type de fonctionnalité, du coup, va demander pas mal de boulot, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de standard d'interopérabilité entre l'ensemble des solutions. Ça viendra peut-être un jour. Mais en attendant, du coup, on doit repenser complètement les architectures, trouver comment on va assembler et orchestrer les différentes briques. C'est très compliqué. Donc, j'ai envie de dire, architecture ultramoderne quand on fait du Mac, oui, à terme, mais non, c'est pas magique. Et par contre, c'est très valorisant parce que ça nous y emmène.
Alors, je vais me faire l'avocat du diable parce qu'il faut un peu de contradiction. Il y a pas mal de choses que tu as évoquées. La première, ça te permet pas d'être moderne, mais on va dire, c'est moderne ready. Alors, c'est pas grâce à ça que tu vas être moderne, mais ça va te permettre d'aller vers le moderne. Et on oppose souvent le Mac au monolithe. D'ailleurs, bon, enfin, ça peut être un autre point de la discussion. Mais est-ce que tu es d'accord pour dire que tout n'est pas product, enfin, outil, technologie, mais il faut avoir les bonnes briques pour pouvoir mettre en place justement des choses qui sont plus modernes, ou en tout cas plus agiles.
Oui, en fait, c'est ce que je disais même à la fin, c'est que ça force à aller justement faire évoluer l'IT autour de ces nouvelles solutions. Donc, c'est plutôt vertueux. Mais la route est longue, c'est compliqué. C'est vertueux, mais c'est compliqué.
Là où je te rejoins complètement, c'est on a tendance à sursimplifier, je ne sais pas si ça se dit en français, mais sursimplifier et se dire effectivement qu'on va le mettre en place et ça lever beaucoup de freins. Et en réalité, la mise en place peut être, dans certains cas, plus complexe qu'une solution tout en un, monolithe, comme on aime à le dire. Olivier, il y a autre chose que t'as dit, c'est l'interopérabilité. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu surcoté, ce terme, parce que ça fait plus de 10 ans que je l'entends et qu'on le met en avant, et en réalité les marques le veulent mais elles l'utilisent jamais. Donc l'idée, le vœu pieux de se dire je vais pouvoir enlever une brique et remettre une autre chose, oui, mais en fait personne le fait, ou c'est extrêmement rare, ou ça se fait quand tu vas rechanger tout ton stack. Donc tu penses pas que c'est un argument qui finalement c'est pas si important que ça, de l'interopérabilité?
Je suis pas totalement d'accord avec toi. Disons que ça fait quand même un paquet d'années que si on veut changer de moteur de recherche ou rajouter de la perso, même si c'est dans notre monolithe, on peut quand même aller les chercher à l'extérieur. Et on va dire que les API sont une façon de se dire, bah oui, une API, c'est une façon d'accéder à une application depuis une autre. Donc quelque part, bon, c'est pas l'interopérabilité au sens le plus pur des années 80 où on met une brique et effectivement on en met une autre et ça marche pareil, mais c'est quand même une direction. Donc, tu as raison, c'est un peu surcoté, mais cependant, c'est une des promesses de l'Alliance Mac, c'est-à-dire qu'à terme, on devrait facilement pouvoir changer un composant par un autre, hein, d'où l'approche composable.
Et là où tu as complètement raison, c'est il y a certaines briques ou certains composants qui sont de toute façon toujours outsourcés, ou on parle paiement par exemple, enfin, ça ne viendrait pas une seconde à l'esprit de la plateforme e-commerce de le gérer. Tu parlais de ciblage, enfin de moteur de recherche, c'est un autre exemple où, qui en général, effectivement, ça fait sens d'utiliser des solutions dédiées.
Alors sur le paiement...
Ah, tu vois d'autres choses?
On pourra en discuter avec nos amis de Miracle qui du coup viennent maintenant avec leur solution de paiement. En tout cas, c'est leur dernière annonce, ou un Proximis racheté par une boîte qui justement fait une solution de paiement. On sent bien que les deux vont être intégrés. Mais bon, c'est un autre sujet.
Ouais, peut-être que ça arrivera demain et ça va venir d'autres choses. Avançons sur le deuxième point.
Alors, il y a plusieurs présentations de différents éditeurs, donc c'est que ça doit être une tendance du Mac, qui dit l'approche Mac va permettre d'aller plus vite vers l'omnicanalité. Moi, là, j'ai du mal, par contre. Donc, j'ai envie de dire, c'est pas tout à fait vrai. Au sens où l'omnicanalité, on le sait, et alors là, voilà, 10 ans d'expérience sur purement, strictement l'omnicanalité, ça n'est rendu possible que par la mise en œuvre de référentiels de données partagés entre les applications. Ça, c'est l'omnicanalité. Tant que chaque fonction, chaque appli vient avec son propre référentiel de données clients, de données commandes, de données produits, de données prix, de données stock, de données tout ce que tu veux, l'omnicanalité, on n'y sera pas. Tant qu'il y a une barrière entre tout ce qui est en point de vente physique et en e-commerce, tant que ces barrières existent, on n'y arrivera pas. Et qu'on mette un outil Mac certifié là-dedans, ça ne va pas changer grand-chose. Donc, ce qui est intéressant dans cette approche et les petites lignes qui sont en dessous dans les présentations éditeurs et ce qu'ils racontent à nos clients, c'est de dire non, mais avec une approche Mac, vous allez aller plus vite. Donc là, on peut s'arrêter là. Oui, plus vite, peut-être. Plus vite vers l'omnicanalité, non, ça c'est vraiment fake. Il y a des graphiques qui montrent des trucs, c'est ouf. Bref.
Mais Olivier, ça vient d'où du coup? Ça a sûrement un fondement. Le fondement, c'est peut-être justement, on parlait d'interopérabilité, peut-être que les systèmes communiquent plus facilement ensemble. Tu décomposes, chaque brique va être en charge d'un référentiel et va honner, enfin va être... le référentiel justement d'un type de données, non?
Bah juste non. Je pense que l'idée derrière c'est plutôt lié à ce qui va être headless, et du coup on n'a pas attendu le Mac pour faire du headless, en disant voilà, peut-être que j'ai une même brique qui pourrait servir aussi bien à une tablette vendeur, un e-commerce B2C client et je sais pas quoi, encore un troisième outil pour le service client. Et là du coup on a plusieurs canaux et des services, mais ça c'est headless, on va dire. Mais on prend un vieux, un monolithe dinosaure, il le fera déjà en partie. Donc, je pense que bien que ce soit ce qui est mis en avant, je préférerais qu'on se concentre plus sur la flexibilité et l'agilité. Une fois que l'approche Mac est mise en place, Parce que ça, par contre, c'est compliqué à mettre en place. Mais une fois que c'est mis en place, oui, je suis assez persuadé. En tout cas, on constate que ça va être un peu plus facile d'aller intégrer justement certains applicatifs ou de faire évoluer des fronts.
Aujourd'hui, quand toi, tu as mis en place des projets omnicanaux, que ce soit Monolith ou Mac, d'ailleurs, il faudrait réfléchir pourquoi on oppose les deux, mais ça serait peut-être une longue discussion. Mais peu importe le stack technique, finalement, c'est plus ce qu'on veut faire et comment on va intégrer les différents outils, c'est ça?
Oui, ben en fait, pour moi, l'omnicanalité, ce qui est en face, ce qu'il faut qu'on mette en face, c'est un écosystème IT qui le permet. Et dans cet écosystème IT, que la brique, elle soit Mac ou pas Mac, pour moi, c'est pas le plus important. Voilà. Donc, c'est un mythe. Je l'ai vu. J'ai des presse où c'est écrit en gros. Je pense que c'est fake. C'est pas là-dessus que j'insisterai. La flexibilité et l'agilité, une fois que c'est en œuvre, ouais, ça, par contre, il y a des choses très pertinentes.
Et les clients, avant qu'on passe au troisième point, les marques, quand elles viennent te voir, elles te disent, elles mélangent les deux, il y a de la confusion, elles disent « je veux du Mac » ou en fait, elles s'en fichent, parce que ça, c'est des considérations techniques d'architecture et elles viennent avec un besoin.
Alors, en fait, tu as raison. L'approche Mac, aujourd'hui, au début, il y a un an donc, elle était vraiment poussée auprès des CTO en disant « on ne vendra pas de Mac à quelqu'un d'autre. De toute façon, on ne fait pas de démo solution. » Ah, pour le métier, oui, ça, on a tous besoin d'une démo solution. Bon. Ça a un peu changé. Et c'est pour ça, je pense, que sont apparus des arguments de ce type. L'omnicanalité, on la fera mieux, on la fera plus vite, ou même on sera les seuls à pouvoir la promettre grâce à notre approche, blablabla. Donc, je pense que c'est ce qui est vendu. C'est une façon aussi de sortir de la technique, de dire Mac, c'est une architecture, mais Mac, c'est aussi des accélérateurs business. Voilà. Et c'est pour ça, je pense, que c'est ressorti et que c'est intéressant de le mettre de le dire comme ça. Voilà. Maintenant, c'est ce que j'ai dit. Je pense que c'est pas tout à fait justifié derrière.
Ça demanderait une longue discussion, mais je suis tellement d'accord avec toi sur le repositionnement. En tout cas, je l'ai noté, moi, ces derniers mois, sur sortir un petit peu d'un discours juste technique pour l'amener plus vers le métier et avoir un impact, justement, consommateur ou impact business. Avançons, Olivier, le troisième point que tu avais retenu pour nous.
Mac, c'est moins cher parce qu'on paye pour ce qu'on utilise. La bonne blague.
Alors, explique pourquoi, déjà le fondement d'où il vient et puis ensuite pourquoi c'est pas nécessairement vrai.
Alors, l'approche Mac, elle est très liée à ce que les cabinets d'études internationaux, pour ne pas les citer, appellent le commerce composable. C'est-à-dire, je n'ai pas une suite qui a énormément de fonctionnalités qui sont liées les unes aux autres, comme avant, mais j'ai des composants par fonctionnalité. Donc, j'ai un composant, c'est toujours les mêmes exemples, moteur de recherche, ça on le comprend bien, j'ai un composant moteur de promo, j'ai un composant gestion du panier, etc., etc. Et l'idée, c'est de dire, dans ce commerce, dans ces architectures de commerce composé, de dire justement, je vais pouvoir choisir des composants, changer un composant par un autre pour prendre ce qu'il y a de mieux. Donc, prenez la brique e-commerce Mac X ou Y, ah, mais c'est un truc qui vous plaît là-dedans, bah, prenez ce composant ailleurs. Et du coup, vous ne paierez pas pour un pack très complète fonctionnalité. Donc, c'est vertueux. Enfin, quand on écoute le discours, on dit, bah ouais, c'est chouette.
Un exemple, parce que je viens de ces solutions, c'est tu utilises une grosse solution qui fait plein de choses, qui n'est pas spécialisée dans une chose, mais qui va te permettre de déployer ton site e-commerce en une seconde. Et le moteur de promotion, c'est un exemple. Si je suis dans un certain secteur, bah, je ne sais pas, le luxe, par exemple, et je n'utilise pas du tout le modèle de promotion, je paye quand même pour cette solution sans avoir à utiliser cette fonction. Donc, il est là le fondement. C'est de se dire, je vais découper et je vais juste payer pour les fonctionnalités qui me seront utiles.
Exactement. Mais derrière, donc c'est assez indiscutable. Ok, si je prends une approche Mac et que je prends certains composants seulement et qu'on me les tarifie comme tel, c'est-à-dire qu'on ne me vend pas le même prix toute la boîte ou seulement certains composants de la boîte, c'est assez réel. Mais là où je trouve qu'il y a une petite potentialité d'illusion, c'est de dire, et du coup, un projet Mac, c'est moins cher. Et voilà, et là, c'est un petit peu plus, la vérité est plus complexe. Parce que justement, quand on fait du commerce composé, ou en tout cas, quand on a des architectures, on utilise différents composants, bah, par définition, on va payer pour chacun de ces composants. Et en fait, avant, c'était simple, on avait notre suite, on payait, on avait tout. Et éventuellement, si on voulait rajouter un moteur de recherche ou une solution de personnalisation, bon, bah, la facture, à la fin du mois, elle est connue et prévisible. Là, c'est pas le cas, puisque justement, on veut sortir de ce schéma et se dire, non, moi, je veux une brique e-commerce que je vais payer d'une certaine façon, avec un certain pricing model. Ah, mais dans cette brique e-commerce, attention, je vais pas tout prendre. Il y a certaines fonctionnalités que je vais prendre dans une autre brique e-commerce. C'est ça la logique Mac. Donc là aussi, rebelote, deuxième pricing model, pas forcément le même que le premier. Pour le search, évidemment, je vais payer le search. Pas pour le CMS, je vais payer un CMS. Et à la fin, en fait, on a une complexité d'anticiper les coûts. Parce que chacun va être basé sur des critères différents, des paramètres différents, etc. Et la capacité à faire un TCO sur une architecture full Mac, elle est vraiment complexe.
Alors, Olivier, le raccourci TCO, Total Cost of Ownership, c'est le coût total du projet. D'ailleurs, qu'il ne faut pas regarder au lancement, mais sur 3 ans, pour regarder tous les coûts, différentes solutions. Je vais me faire encore une fois l'avocat du diable. C'est vrai, mais qu'en partie. Parce que si tu regardes juste sur la brique e-commerce, mais d'ailleurs, qui ne fait pas tout, mais sur la brique e-commerce, bah, au lieu de payer le full stack, tu vas payer une plus petite partie. Donc, le coût sera moindre. Mais effectivement, si tu regardes l'ensemble du projet et toutes les différentes briques, je ne dirais pas que c'est moins cher. Ce n'est pas nécessairement plus cher, mais en tout cas, c'est équivalent. Ça pourrait être un prix équivalent. Mais effectivement, dire que c'est moins cher, c'est peut-être un raccourci. Et à côté de ça, il y a d'autres choses qu'on omet de dire. C'est multiplicité des acteurs égale multiplicité des contrats. En se disant que même c'est moins cher les briques différentes, encore une fois là je suis plutôt de ton avis, je challengerais ça, parce qu'en fait quand tu mets la somme de plein de différents acteurs, plein de différents éditeurs, c'est pas nécessairement moins cher. Et surtout la gouvernance en interne avec qui utilise quoi et gouvernance des données, où est-ce qu'elles vont, ce qui amène une certaine complexité. D'une certaine manière, oui, tu as de l'agilité, mais il y a une certaine complexité à gérer, donc tu dois avoir une certaine maturité peut-être dans tes équipes ou dans la gestion de cette infrastructure.
Alors oui, et puis il y a deux autres, on peut ajouter deux autres points assez simplement. Moins cher, plus cher, en fait, si on a fonctionnalité égale, ça risque d'être plus cher parce qu'on va devoir nous prendre en charge côté IT du client final, l'orchestration justement. De mettre toute l'intelligence qui était dans les suites auparavant, du coup, elle nous incombe de dire oui, mais moi, je vais orchestrer. Donc, techniquement, là, pour les équipes IT, faire en sorte d'avoir 18 composants au lieu de 4, c'est pas magique. Il va falloir que. Et alors là, c'est de l'expertise, c'est peu de retour d'expérience. En fait, c'est vraiment des sujets pleinement d'actualité chez pas mal de clients, de comment on orchestre tout ce bazar. Et donc, c'est compliqué. Donc, tu l'as dit, il y a la gestion des responsabilités que tu as précisé en amont, mais même après en aval. C'est-à-dire, il y a un problème sur le site étant quelque part une résultante. Waouh! Là, aller chercher quel est le composant qui est en cause. Du coup, on ne discute pas avec un support éditeur, mais avec 14 supports éditeurs. Bon, c'est voilà. Après, il faut quand même bien voir le point très positif, hein, parce qu'une fois de plus, hein, Mac, c'est bien. On dit que Mac, c'est pas magique, mais Mac, c'est bien. C'est-à-dire que le point positif, c'est que justement, on va pouvoir aller choisir les briques. Par rapport à une suite qui fait tout de façon plus ou moins sophistiquée, là, on va pouvoir choisir des composants qui sont tous hyper sophistiqués. C'est vraiment ça, la magie. Enfin, là, pour le coup, la vraie magie de ce type de solution, c'est d'aller prendre les meilleurs acteurs et de les changer si à un moment ils ne sont plus les meilleurs par un autre qui devient meilleur. Et ça, c'est vraiment pour le métier, du coup, très vertueux.
Est-ce que enfin moi j'ai l'image de quelque chose qui est très bien, comme un outil qui est très bien, mais dans les bonnes mains. Donc en fait, c'est pas fait pour tout le monde. Il faut être bien accompagné ou avoir les bonnes ressources ou la bonne maturité pour pouvoir correctement l'utiliser. Et dans ce cas-là, oui, tu vas pouvoir être à stack égal, tu vas pouvoir être plus agile, plus rapide, plus performant.
Ah oui, là je suis complètement d'accord avec toi. Autant on sait maintenant qu'il y a quelques clients de solutions Mac qui sont des clients entre guillemets classiques, qui n'ont pas forcément de folles équipes IT et qui font très bien avec. Mais du coup, je pense que comme tu le dis, pour profiter pleinement, c'est-à-dire avoir ce réflexe de j'ai 18 composants parce que je le souhaite, et sur les 18, tous les ans, je vais en changer 4 pour être toujours au top. Voilà, ça demande vraiment une maturité IT, un dispositif avec beaucoup d'experts, comme tu dis, interne, externe, peu importe. Mais en tout cas, c'est difficile de remplacer un monolithe par une architecture full Mac avec les mêmes personnes, avec les mêmes budgets et avec les mêmes roadmaps. Ce sont des projets différents, probablement meilleurs, probablement en tout cas avec une valeur interne qui peut être meilleure. Mais comme tu le dis, c'est pas pour tout le monde, ou en tout cas, il faut s'y préparer, il faut l'anticiper et il faut le staffer et le planifier comme il faut.
Olivier, merci beaucoup d'avoir pu échanger avec toi sur tous ces aspects. On voit que tu as vraiment de l'expérience et que tu as roulé ta bosse autour du Mac, donc tu vas travailler avec les idées préconçues qu'on peut avoir et puis le mettre en place. Mais bon, je te sens aussi positif finalement, et c'est juste que l'éducation autour du Mac, elle doit se faire de manière sereine. Comment on fait pour en savoir plus et pour te contacter?
Pour en savoir plus sur le blog de Clever Edge, Il y a un article de l'année dernière sur les architectures Mac. Je pense qu'il reste d'actualité. Il est intéressant à parcourir. Et puis, vous pouvez me contacter sur mon LinkedIn avec grand plaisir. Merci beaucoup, Adrien. C'était un plaisir d'échanger avec toi, comme d'habitude. J'espère à bientôt.
Ouais, alors merci mille fois. On va mettre tous les liens. Et puis, ça me permet de faire un petit coup de projecteur sur votre blog. Parce que même si, alors j'ai envie de dire, j'aimerais avoir plus d'articles, mais en fait, je suis en train de voir qu'il y en a pas mal. Dans la section veille, vous parlez pas mal de choses, de tout ce qui tourne autour de l'e-commerce. Et c'est des sujets qu'on parle dans le podcast. Je vois TVA, Marketplace, de B2B. Donc, c'est vraiment pour tous ceux qui sont intéressés et passionnés par l'e-commerce. N'hésitez pas à aller consulter le blog de Clever Edge. Il y a plein de ressources super intéressantes. Olivier, au plaisir d'échanger très prochainement. Merci encore. Au revoir.
Merci beaucoup. Au revoir.
Reco micro au micro, on fait notre reco. Écoutez-la illico presto. Retrouvez l'ensemble de nos recos sur la page Notion en lien dans la description. Adrien, quel est ta reco de la semaine?
Ma reco, c'est une petite vidéo YouTube d'un reportage d'une série Netflix qui s'appelle Netflix is a joke. Donc c'est des stand-uppers qui font leur show. Et il y a un extrait, j'ai adoré. Donc l'artiste, je le connaissais pas, c'est Ronnie Chiang. Du coup, j'ai regardé ce qu'il fait, ça me fait bien marrer. Et tous ceux qui écoutent le podcast, je pense qu'ils vont regarder ce truc et ils vont adorer. Ça dure 4 minutes, c'est tellement drôle. Je m'en veux de pas lui avoir piqué ses blagues parce que c'est extrêmement drôle. C'est sur Amazon. Là, je vais pas spoiler parce que ça sera pas marrant, mais si vous écoutez le podcast, si vous aimez l'e-commerce, vous regardez l'extrait qu'on vous a mis. Ça parle juste d'Amazon, de comment on achète sur Amazon, c'est hilarant. C'est vraiment très très drôle. Donc je vous invite. Voilà ma reco, un peu légère aujourd'hui pour contrebalancer les mauvaises nouvelles. Laetitia, quel est ton reco? Je t'ai mis la pression. Si t'as une mauvaise nouvelle, c'est pas bien. Vas-y.
Ah ouais, moi je vais dans l'amorosité, la négativité, dans tout ce que vous voulez. Marocco, c'est la série We Crashed, j'en ai parlé un peu en intro.
Ah, c'est sur, ça génial.
Ouais, c'est ça.
Je pensais que tu l'avais déjà recommandé dans le passé.
Tragique. Ok. Non, mais là je la recommande sur l'épopée tragique WeWork. Alors moi ça me fait doucement sourire parce que avec Adrien on a partagé longtemps des bureaux chez WeWork et on a un peu connu l'avènement WeWork en France. Et donc c'est marrant parce que quand on regarde la série, on retrouve tous les codes qu'on connaît bien du coup. Et le personnage d'Adam Newman qui est le créateur de WeWork, complètement dingue, joué magnifiquement bien par Jared Leto. J'arrête parce que je suis pas critique de cinéma ni critique de série. En revanche, ça dépeint tout ce qu'on s'est dit sur les super valorisations, les licornes, les ambitions des fondateurs, les croyances et aussi les comment est-ce qu'on va dire ça ? Ouais, bon, les croyances et parfois peut-être même un peu la naïveté des investisseurs. Pas tous, hein, attention, je sais qu'il y en a des investisseurs qui nous écoutent, mais c'est plutôt bien fait. Et puis en plus, ça colle à la réalité, puisque moi, quand je regarde quelque chose, après, je m'intéresse à fond et je suis allée regarder un peu comment Adam Newman s'exprimait, parce que dans la série, il a un accent assez prononcé et en fait, il s'exprime vraiment comme ça. Il était complètement barge, il hurlait, machin, et donc j'ai retrouvé des vidéos, enfin, c'est vraiment comme ça.
Et Laetitia, ce qui est amusant, c'est qu'il y a, donc, désolé d'avoir spoilé un peu plus tôt ta reco, je pensais que tu en avais déjà parlé. Il y a quelques semaines, enfin, on me l'a recommandé. Alors, j'ai pas Apple, donc j'ai pas pu la regarder, mais notamment un VC me l'a recommandé.
Mais on peut la regarder ailleurs que sur Apple. Ouais. Demandez-moi, oui, je oui. Vous dis où regarder.
D'accord, oui, c'est ça. Mais non, ce que je voulais dire, c'est que ça a été recommandé par un VC, donc en fait, c'est sûrement romancé. Nous, on connaît pas vraiment tout ce qui se passe derrière, mais si c'est un recommandé par quelqu'un qui travaille dedans, qui travaille dans des fonds, etc., je pense que c'est très proche de la réalité
du
secteur.
Enfin, en tout cas, moi, j'ai envie de croire secteur. Que ça s'est passé comme voilà. ça. Et la réalité pour nous qui utilisions les bureaux WeWork, c'est celle-là. Très clairement. Le panier surprise, c'est la rubrique de fin, celle où on se détend, on s'amuse, on rigole. Adrien est le maître du jeu depuis sa DeLorean, parce qu'effectivement, Adrien est depuis sa DeLorean. Il enregistre depuis sa DeLorean. Il est le maître du jeu, il s'amuse autour des sujets du digital. N'hésitez pas, en nous écoutant, à vous prendre aussi au jeu de votre côté.
Laetitia, cette semaine, j'ai un French Connection, donc je te dis des mots et tu dois trouver le lien qu'il y a entre tous ces mots. Et voilà, et j'espère que tu vas trouver rapidement. Alors, le premier, ils évoluent dans l'e-commerce. Bon. OSF,
uh-huh.
Damar,
ouais.
Peak Time.
C'est des acteurs du Nord, tout ça. Non.
Bravo, tu as gagné. Et ouais, bon, c'était peut-être un peu trop facile. OSF, Damar, Peak Time, Cagette et Paprika, Institut du Commerce Connecté, Laura Technologie, Happy Chic, The Trace, Verbaudet, Leroy Merlin. Et il y en a un paquet, mais effectivement, ce sont tous des acteurs du Nord. On est tellement parisiens, parisiens, ça me faisait marrer. Et puis, enfin, nous, on a l'habitude maintenant d'aller dans le Nord, notamment. Et il y a aussi énormément de startups vers Lyon. D'ailleurs, grâce au podcast, on avait rencontré plein d'acteurs. Canada également.
Enfin, Nantes. Bon, aussi. Ouais, à Nantes, il y a un petit écosystème bien sympa.
Nantes aussi. En tout cas, bravo Laetitia, c'était effectivement quelques acteurs du Nord.
Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir partagé avec nous cet agréable moment. Pour retrouver les références à cet épisode, rendez-vous dans les notes de l'émission ou sur le site lecafédecommerce.fr. Laissez-nous 5 étoiles, c'est très important, c'est notre seule reconnaissance sociale et légitime. Donc s'il vous plaît, laissez 5 étoiles.
Il paraît que tu l'as mis sur ton CV. Qu'on a... Alors on a eu 112 la dernière fois et suite à l'appel, on a eu une personne qui a noté. Donc on est à 113, 5 étoiles. Donc merci une fois.
Voilà.
Et puis lâchez des commentaires aussi, des trucs amusants et on les lira à l'antenne. À très bientôt tout le monde et à plus Laetitia.
Ciao ciao.
À la fin, un seul d'entre eux survivra. Son nom, Duncan MacLeod. On l'appelle Highlander.